qu'en termes d'impact, que ce soit sur le débat public comme sur les politiques publiques, le rapport sur l'IVG a été très important parce que il est arrivé à un moment opportun avec la question du développement des attaques de la désinformation sur l'IVG sur Internet, puisqu'on a rendu le premier rapport sur la question en septembre 2013. Puis notre rapport plus complet sur l'accès à l'IVG dans les territoires est arrivé à un moment où il y avait un droit à l'IVG qui était attaqué en Espagne, et donc avec une forte sensibilité au sujet. Et du coup, ça a montré aussi qu'on avait des progrès à faire en France pour réellement permettre l'accès à toutes les femmes, où qu'elles habitent, quels que soient leurs moyens, de pouvoir accéder à ce droit-là. Et du coup, on a eu une écoute très attentive à ce moment-là des pouvoirs publics. Et c'est vrai que notre rapport a vraiment permis, je crois, au pouvoir public d'être très réactif et de pouvoir prendre des mesures fortes rapidement parce qu'on avait fait un gros travail d'analyse, d'évaluation de l'accès à ce droit-là en France. Et donc, on avait des propositions très précises, dont l'essentiel ont été reprises dans le plan IVG lancé par Marisol Touraine et soutenu par les ministres en charge des droits des femmes successives. Et donc, je pense qu'en termes d'impact, c'est vraiment peut-être celui qui a le plus impacté les politiques publiques. Voilà. Avec la suppression du délai de réflexion, avec le remboursement à 100%, avec une revalorisation, enfin, ou en tout cas une nouvelle place donnée aux sages-femmes dans la pratique de l'IVG, avec la création d'un site internet gouvernemental visible pour contrecarrer les sites de désinformation. Et il y a encore beaucoup d'autres mesures qui ont été retenues et appliquées. Donc voilà, ensuite en termes d'émergence de nouveaux sujets, même si ce n'est pas nous qui l'avons fait émerger, c'est les associations de terrain et les collectifs qui s'étaient montés sur le sujet, mais on a permis de le... Disons que le sujet émergé, le sujet du harcèlement dit de rue à l'époque, il émergeait et nous, on a permis par nos analyses, nos études, nos recommandations, de lui donner une visibilité décuplée et d'interpeller fortement les pouvoirs publics là encore. Donc l'avis sur le harcèlement sexiste dans les transports en commun, c'est l'avis qui a eu le plus d'écho médiatique, qui a permis aussi une mobilisation du coup très forte du gouvernement là-dessus, avec un plan qui a donné lieu à une campagne nationale, qui a donné lieu à une campagne déclinée dans différentes villes françaises. Ça a généré, comme je le disais tout à l'heure, le développement de collectifs de femmes ou de collectifs féministes plus largement dans plein de territoires. Et puis, ça a donné lieu, pour le coup, à une vraie prise de conscience des transporteurs publics qui étaient dans le déni. Qui était dans le déni sur cette question-là. Moi, vraiment, là, je crois que je retiendrai ça parce que c'était un dialogue de sourds au début. Nous, on avait des centaines de témoignages. On savait que c'était une réalité vécue par les femmes. Et eux, les transporteurs, notamment un grand transporteur national français, nous renvoyer le chiffre de un viol dans les trains de France par an. Donc, vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas, non, vraiment, c'est un ressenti des femmes, c'est un sentiment d'insécurité, c'est un ressenti, mais ce n'est pas une réalité. Et donc, on peut repeindre les murs en rose, mettre de la musique dans les allées, et puis dans les couloirs, et puis ça va régler la question. Et donc, on avait beau leur dire que ils n'enregistraient pas ces faits-là, puisqu'ils n'étaient pas... Puisqu'ils ne posaient même pas la question de ces faits-là, tellement ils étaient banalisés. Une main aux fesses, une insulte sexiste, quelqu'un qui vous suit, etc. C'était pas dans les enquêtes. Donc forcément, ça ne pouvait pas ressortir. Et donc, on avait vraiment l'impression d'un dialogue de sourds. Et c'est vraiment parce qu'il y a eu un débat public très très fort avec des milliers de témoignages et qui venaient corroborer le diagnostic qu'on pouvait faire, que ça les a poussés à s'organiser en interne et à réellement prendre le sujet à bras-le-corps. Et je pense que là, de ce point de vue-là, le saut est qualitatif dans la prise en charge de ce harcèlement sexiste et violence sexuelle dans les transports en commun par les transporteurs. Donc ça, c'était important aussi. Ensuite, il y a eu un avis qui est passé beaucoup plus inaperçu, mais qui a de réels impacts aussi. C'est l'avis qu'a produit la Commission internationale, la Commission enjeux internationaux et européens sur la question de l'asile. Parce que là, on a fait un travail au long cours, qui a impliqué la Commission pendant de longs mois et sur plusieurs années, entre la concertation sur la réforme de l'asile et le vote de la loi asile au Parlement. La Commission a réussi à pouvoir s'intégrer à toutes les étapes et à produire du coup une analyse féministe de cette question avec du coup des propositions là aussi tout l'enjeu du Haut Conseil c'est de ne pas rester sur des propositions générales mais vraiment de faire des propositions les plus opérationnelles possibles pour que les décideurs finalement et un travail pré-mâché, c'est ça notre rôle. Et donc, la participation à la concertation, les auditions par la rapporteure à l'Assemblée nationale et par la délégation aux droits des femmes, le fait qu'on avait un dialogue constructif avec le ministère de l'Intérieur a fait que beaucoup de nos recommandations sur l'asile ont été reprises, notamment sur la question de mieux prendre en compte les mariages forcés ou les mutilations dans les motifs d'asile, de mieux prendre en compte aussi le sexe de l'examinateur, parce que la révélation de violence faite aux femmes ne va pas être la même si une femme est interrogée par une femme ou par un homme, selon que voilà qu'elle soit dans un vécu très douloureux et que sa culture d'origine puisse l'empêcher de révéler des violences entre guillemets intimes à un homme, ou qu'elle soit interrogée avec son mari ou pas, qu'il puisse y avoir aussi un interrogatoire séparé, parce que les récits du parcours d'asile peuvent être différents entre les deux membres d'un couple, selon qu'ils soient interrogés ensemble ou séparément. Et ensuite l'hébergement aussi, parce que l'hébergement, on sait aujourd'hui qu'il y a des violences fortes, des violences sexistes, sexuelles, à l'encontre des femmes demandeuses d'asile dans les centres d'hébergement pour demandeurs d'asile. Et donc il y a une vraie amélioration à voir là-dessus. Donc on sait aujourd'hui, il y a eu une visite de la Commission internationale dans un centre d'asile, un CADA, centre d'accueil des demandeurs d'asile à Ivry-Gargan il y a 15 jours. Et la commission a pu se rendre compte effectivement qu'au-delà de la loi qui avait franchi un cap qualitatif, l'OFPRA, qui est en charge de la politique d'asile en France, est très volontariste et s'organise pour progresser dans la prise en compte de l'égalité femmes-hommes, notamment en termes de formation, etc.